OK, on va commencer notre 59e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, nous allons voir le 5e grand réveil évangélique qui a eu lieu entre 1900 et 1915. Comme on l'avait vu dans nos leçons précédentes, les historiens chrétiens qui ont étudié les réveils, normalement les classent de la manière suivante. Le premier grand réveil évangélique a eu lieu entre 1725 et 1775. Le deuxième grand réveil évangélique, 1792-1822. Le troisième, 1830-1847. Le quatrième grand réveil évangélique, 1858-1898. Le cinquième grand réveil, 1900-1915. Et le sixième, de 1948 à 1950. Alors, bien entendu, dépendamment des auteurs qu'on peut utiliser, il peut y avoir des petites variantes dans la façon dont ils sont classifiés. Certaines fois, ils peuvent prendre deux réveils et d'en faire juste un, disant que c'est un prolongement du premier. Mais en général, c'est une bonne façon de regarder pour comprendre un peu les différents grands réveils. Alors, jusqu'ici, on avait étudié les quatre premiers. Aujourd'hui, on va étudier le cinquième, de 1900 à 1915. Alors, une chose à remarquer, c'est que dans sa providence gracieuse, Dieu permettait une récolte d'âmes avant la Première Guerre mondiale. Alors, l'arrière-plan était sombre. Il commençait à y avoir de graves compromis entre l'humanisme et le christianisme. Une des manières dont tout cela se manifestait était l'introduction de la psychologie de Sigmund Freud et aussi de la théologie libérale qui enseignait que Dieu n'est qu'une illusion. Et il y avait bien d'autres choses encore, mais c'était peut-être les facteurs les plus importants. Il y avait bien sûr peut-être le communisme qui commençait à s'étendre aussi. Alors, le premier point qu'on va regarder, c'est vraiment l'importance du cinquième grand réveil évangélique. Alors, on va regarder un petit peu son étendue. Plusieurs auteurs considèrent le cinquième grand réveil comme étant le plus grand et le plus important de tous les temps. Beaucoup de dénominations connurent ses effets extraordinaires. Les anglicans, les baptistes, les congrégationalistes, les luthériens, les méthodistes, les réformés et plusieurs autres grands groupes évangéliques. Cependant, il ne se produisit rien ni chez les catholiques, ni chez les orthodoxes. Et le phénomène fut expérimenté sur tous les continents. Contrairement aux autres qu'on avait regardés, alors il y a eu des choses qui se sont passées en Europe, en Amérique, en Australie, en Asie et en Afrique. Alors la chose, je dirais, une des choses les plus extraordinaires, c'est de considérer la quantité de personnes qui ont été... Alors, le nombre total de nouveaux convertis dans cette période est estimé à 5 millions de personnes. Alors, c'est énorme. Alors, les débuts, comment ça a commencé? Le phénomène a commencé avant un petit peu le réveil du pays de Galles qui a eu lieu entre 1904-1905. Alors, la première manifestation eut lieu au début des années 1900 parmi les prisonniers de guerre, la guerre des Boers, aux Bermudes et au Ceylan. A remarqué que ce sont des endroits éloignés de plus de 10 000 milles les uns des autres. Au Japon, par exemple, en 1900, le nombre de chrétiens a doublé sur une période de 10 ans. Faut se rappeler que tout cela avait été précédé par une multitude de petits groupes de prières qui s'étaient organisés spontanément sur toute la planète. L'autre point qu'on va regarder, c'est la géographie. Alors, on a dit que c'était sur tous les continents. On va regarder en gros, très rapidement, parce qu'on ne peut pas étudier le cinquième grand réveil qui s'est passé sur 15 ans, sur tous les continents, dans une multitude de pays, et avoir tous les détails, parce que là, il faudrait passer des mois à étudier ça. Dans le fond, c'est juste pour avoir une idée de ce que le Seigneur a fait. Alors, en Europe, au pays de Galles, alors on sait que c'est en Grande-Bretagne, le réveil a débuté localement et il s'est répandu sur tout le pays un de ses leaders les plus connus, fut Evan Roberts. Je vous ai mis une photographie. Sur le site Sentinelle de Néhémie, on peut trouver, je vous l'ai reproduit ici mot pour mot, là, un résumé de son rôle dans ce réveil-là et un peu une très, très, très courte biographie. Alors, ça commence en disant « Les graines du réveil sont toujours nourries dans les cœurs humbles. » Et il en fut ainsi avec le grand réveil du pays de Galles en 1904. Ce fut dans le cœur d'un jeune homme, d'un jeune mineur nommé Evan Roberts, que Dieu planta la vision brûlante d'un réveil spirituel. Evan Roberts ne possédait pas les talents d'un grand intellectuel, ni l'art de l'éloquence, mais simplement une passion brûlante pour Jésus. Alors que les autres jeunes hommes naviguaient sur des bateaux dans la baie, le jeune Roberts assistait fidèlement aux réunions de prière. Bien qu'âgé seulement de 26 ans, Evan Roberts n'avait pas de temps pour les amusements et les plaisirs si courants à la jeunesse. Jour et nuit, sans arrêt, il priait, pleurait et soupirait pour un grand réveil spirituel. Robert écrit pendant 10 ou 11 ans, « J'ai prié pour un réveil. Je pouvais me tenir éveillé toute une nuit pour lire ou parler des réveils. » En définitive, Evan Roberts fut expulsé de son logement par la propriétaire de son appartement, qui pensait que dans ses moments d'enthousiasme, il était possédé ou quelque peu fou. Il passait des heures à prier et à prêcher dans sa chambre jusqu'au point où la dame fut effrayée de lui et le pria de partir. Le rôle d'Evan Roberts dans le pays, dans le réveil du pays de Galles, était tout à fait atypique. Souvent, il conduisait simplement les gens dans la prière ou dans la lecture des Écritures. À d'autres moments, il s'asseyait silencieux, tandis que les gens, l'un après l'autre, confessaient leurs péchés ou rendaient témoignage de la puissance et de la victoire de Christ. Il y avait également des temps d'adoration qui duraient littéralement des heures. Roberts donnait simplement des instructions de temps en temps et laissait l'Esprit-Saint faire le reste. Il fut un exemple constant, démontrant non la façon de prêcher, mais plutôt la façon d'être conduit par l'Esprit. Alors, le réveil du pays de Galles fut une invasion puissante de l'Esprit. Le royaume de Dieu se manifesta radicalement sur la terre. Les hommes ne dilapidaient plus leurs revenus dans la boisson ou dans les vices, mais amenaient une grande joie dans leur famille par le gain de leur travail. Des dettes très, très élevées furent payées par des milliers de jeunes convertis. La restitution était à l'ordre du jour. Les commerces de l'alcool et du jeu perdirent leur clientèle et les théâtres fermèrent par manque d'assistance. Le football fut oublié en ce temps par les joueurs ainsi que par les fans, bien que rien n'eût été dit sur les chairs à ce sujet. Les gens changèrent de vie et eurent de nouveaux centres d'intérêt. Les réunions politiques furent annulées ou délaissées. Elles parurent complètement en dehors du temps, puisque personne ne s'y intéressait. Les dirigeants politiques du Parlement à Londres se rendirent par eux-mêmes aux réunions de réveil. Les barrières dénominationnelles établies par l'homme s'effondrèrent complètement, alors que les croyants et les pasteurs adoraient leur majestueux Seigneur ensemble. L'une des caractéristiques remarquables du réveil était la confession des péchés, non seulement parmi ceux qui n'étaient pas sauvés, mais aussi parmi les sauvés. Tous furent brisés, mis à genoux et fondus devant la croix de Christ. Pendant tout le réveil, Evan Roberts insistait constamment sur la nécessité de régler honnêtement le problème du péché, celle d'une complète obéissance au Saint-Esprit et celle de la prééminence du Seigneur Jésus-Christ. Evan Roberts fut un instrument de guérison d'un pays tout entier. Tout cela parce qu'il veilla, pria et pleura. il toucha le cœur brisé de Dieu et le lui offrit en retour au travers de la prière et de l'intercession. Le résultat fut que, partout où il allait, les cœurs s'enflammaient de l'amour de Dieu. Le réveil du pays de Galles devint célèbre et l'on venait de partout dans le monde pour être témoin du phénomène. On dit qu'il y a eu plus de 100 000 nouveaux convertis. Le réveil se propagea rapidement en Inde, en Corée, en Chine, en Afrique et en Amérique latine. On sait que fort probablement que c'est à cause de l'influence qu'avait l'Angleterre à l'époque, la Grande-Bretagne, qui avait des colonies un peu partout et qu'il y avait du déplacement toujours entre ces lieux-là et la Grande-Bretagne, et les gens finissaient par retourner dans leur pays et ramener un peu de ce feu avec eux. Alors le taux de l'alcoolisme fut réduit de 50% dans le pays. Beaucoup de tavernes firent banqueroute. Il y eut une importante diminution du crime et les policiers se retrouvèrent sans emploi. Il y eut ce qu'on a pu appeler les « slowdowns ». Alors, c'était les gens qui travaillaient dans les mines et qui étaient habitués de traiter leurs animaux avec très, très grande dureté. Alors, quand les mineurs devenaient chrétiens, leur façon de traiter les animaux changeait vraiment beaucoup. Et semble-t-il que ça avait l'effet sur les chevaux. Ils ne savaient pas trop comment se comporter, parce qu'ils étaient habitués de se faire hurler après et de se faire traiter durement. Alors vraiment, les slowdowns dans les mines, parce que les chevaux ne savaient pas comment réagir au langage doux et patient des mineurs convertis. Alors, ils étaient habitués plutôt à un langage hurlant et violent. Alors, la phase la plus intense du réveil a duré 2 ans. On estime que seulement une personne sur 40 abandonnèrent la foi. Les critiques les plus sévères qui ont étudié le phénomène ont affirmé que, selon eux, seulement, entre guillemets, 75% avaient demeuré dans la foi et la fréquentation des assemblées chrétiennes après 5 ans. Quand on dit seulement 75%, disons que seulement, c'est un bon seulement. Alors, le facteur qui diminua l'impact du 5e réveil évangélique fut très certainement l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Le chômage aussi, qui à cette époque-là, il y a eu des problèmes dans les mines de charbon. Le marxisme et aussi le communisme. Alors, on a parlé du pays de Galles, maintenant en Angleterre. Chez les Anglicans, l'archevêque de Canterbury organisa une journée nationale de prière. 30 évêques se déclarèrent pour le réveil lorsque l'un d'entre eux confirma 950 nouveaux convertis dans une seule paroisse. Dans toutes les dénominations, il y eut entre 1903 et 1906 plus de 300 000 nouveaux convertis. Alors, les mêmes phénomènes qu'il y a eu au pays de Galles, en Angleterre, se produisirent également en Écosse et en Irlande. Comme on disait au début, bien entendu, si on voulait, il y a eu des livres écrits sur tous ces réveils-là, dans tous ces pays-là. Et j'ai un livre à maison où c'est un spécialiste de l'étude des réveils, où il donne une très impressionnante bibliographie qui raconte toutes ces choses-là. Alors, quelqu'un qui veut étudier les phénomènes, il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus. Alors, bien entendu, ça ne s'est pas limité en Angleterre, ça s'est répandu aussi en Scandinavie et dans l'Europe continentale. Alors, des manifestations de réveil se sont produites en Norvège, en Suède, en Finlande, au Danemark, ainsi qu'en Allemagne, en France, en Belgique et dans d'autres pays d'Europe. Là, on voit que c'était vraiment important. Et maintenant, tout ça s'est aussi déplacé et c'est venu en Amérique du Nord, donc aux États-Unis. Alors, il y a eu d'importantes conférences de pasteurs à New York et à Chicago. On sait que c'était... Aujourd'hui, la Terre est petite. Hein? Quand il se passe quelque chose en 1900, c'est pas trop long que les gens voyagent beaucoup et que ça s'est répandu. Et il y avait des Américains qui allaient au Pays de Galles et souvent ils ramenaient l'idée de prier pour les réveils. Alors, c'est ça qui explique tout ça, là. Alors, il y a eu d'importantes conférences de pasteurs à New York et à Chicago. Les méthodistes de Philadelphie eurent plus de 6101 nouveaux convertis. Les pasteurs d'Atlantic City proclamèrent que seulement 50 adultes sur 60 000 ne furent pas convertis. Ça, c'est des chiffres qui sont très impressionnants. Alors, l'église baptiste de Paducah ajouta 1000 nouveaux convertis en 2 mois. Et on dit que le pasteur est mort d'overwork. Autrement dit, quand une affaire de même arrive, les nouveaux convertis, c'est vraiment comme des enfants qui viennent au monde, qui ont soif, les gens veulent apprendre et ça fait en sorte que les personnes qui sont prises là-dedans, s'ils n'ont pas beaucoup d'aide, ils se donnent à mourir. Alors, il y a ce pasteur-là, cette église-là est mort de surplus de travail. Alors, les Southern Baptists, à cette époque-là, ont augmenté leur membership de 25% en un an. Dans le Midwest, les usines et les magasins fermaient pour permettre aux employés d'assister aux services d'intercession. Par exemple, à Denver, plus de 12 000 assistèrent aux réunions de prière dans les théâtres et les grandes salles. Il arriva même que la législature du Colorado ferma. Imaginez-vous, est-ce qu'on pourrait imaginer une chose semblable aujourd'hui, que le Parlement du Québec fermerait parce qu'il y a tellement un grand mouvement que même eux seraient intéressés à aller voir ce qui se passe. Quand on regarde ça un petit peu avec un sourire, mais moi, je suis convaincu que le Seigneur est capable de répéter ça encore sans aucun problème. Alors, dans l'Ouest américain, il y eut d'importants meetings. Par exemple, un meeting tenu à Los Angeles attira plus de 180 000 personnes. Quand on parle d'un meeting de 180 000 personnes, je ne sais pas où ça avait lieu, mais ça devait être énorme. Alors, à une occasion, le Grand Opera House fut rempli à minuit par des prostituées et des ivrognes qui voulaient être sauvés. Alors, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Les commerces prenaient des ententes pour fermer entre 11h et 14h pour permettre aux gens d'assister aux réunions et à la prière. Alors, on estime qu'aux États-Unis, durant la période du 5e Grand Réveil, il y aurait eu 2 millions de nouveaux convertis sur une période de 5 ans. Alors, on dit qu'il y a eu aussi d'autres grands phénomènes de réveil qui se sont produits au Brésil, au Chili, ainsi qu'au Mexique et au Canada. Alors, on regarde vraiment là, que c'est vraiment international. Il y a eu aussi en Afrique. Bien sûr, on ne peut pas aller dans les détails, là, mais ça donne une idée que le Seigneur travaillait sur tous les continents. En Afrique du Sud, il y eut 30% d'augmentation des membres chez les méthodistes. À Madagascar, de 1905 à 1915, il y eut une augmentation de 65% du nombre des chrétiens. La conférence missionnaire d'Édimbourg rapporta qu'entre 1903 et 1910, le nombre des chrétiens passa de 300 000 à 500 000 et que le phénomène se poursuivit même durant la Première Guerre mondiale. Maintenant, on change de continent, on va en Asie. Aux Indes, il y eut une augmentation de 70% du nombre des chrétiens dans toutes les provinces. Alors, bien entendu, c'est J. Edwin Orr, qui est vraiment, je dirais, peut-être la plus grande autorité. C'était un presbytérien qui a passé, c'est un pasteur, il a passé sa vie au complet à étudier uniquement. Alors, les chiffres viennent d'un livre qui était disponible sur Internet. Bien sûr, il y avait beaucoup plus de détails que ça dans son livre, mais j'ai retiré à peu près les choses que je considérais les plus importantes, parce que sans ça, ça pourrait être très long de donner des chiffres par ville puis par région. Alors, en Asie, aux Indes, une augmentation de 70% du nombre de chrétiens dans toutes les provinces. En Chine, là, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, le missionnaire canadien, Jonathan Goffert, quelqu'un qui venait de Toronto, qui était un presbytérien, a rapporté 250 000 nouveaux convertis en Chine durant cette période-là. Et je me souviens qu'il travaillait aussi avec un ingénieur, je ne me souviens plus du nom. En tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de nouvelles conversions et de réveil des églises en Chine à cette époque-là. Parce que Jonathan Gofford et l'ingénieur dont je vous parle, que je ne me souviens plus du nom, avaient entendu parler et ils sont venus au pays de Galles. Ils ont pris connaissance de ça et sont retournés en Chine. Et là, ils ont convaincu les pasteurs, les missionnaires qui étaient là-bas à implorer la grâce de Dieu. Et ils l'ont obtenu. Alors, le Seigneur a fait un travail extraordinaire en Chine. En Corée, j'ai souvent entendu parler des réveils de Corée. Il y a eu trois vagues de réveils. Celle de 1903, celle de 1905 et celle de 1907. Alors, ce pays quadrupla ses membres chrétiens en 10 ans. Imaginez-vous que si au Québec, on dit qu'on est à peu près, je ne sais pas moi, disons 50 000 sur une population de 8 millions, si on quadruplerait, on se ramasserait à 200 000 sur une période de 10 ans. Ça serait-tu fantastique ou ça ne serait pas fantastique? Maintenant, on va aller en Océanie. Les phénomènes de réveil se produisirent également en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'Indonésie tripla son nombre de membres chrétiens, passant de 100 000 à 300 000. Maintenant, si on veut regarder quelques caractéristiques de l'ensemble de ce qui s'est passé sur les cinq continents. Alors, les phénomènes de réveil se produisirent chez tous les protestants et dans toutes les dénominations, à l'exception des catholiques et des orthodoxes. Le phénomène se manifesta, mais pas au moyen du parler en langue. Alors, le phénoménal, c'est vraiment, on a parlé dans les leçons précédentes, des choses qui se produisent, des fois les gens perdent connaissance ou des choses semblables, ou des manifestations un petit peu exubérantes. Durant ce réveil-là, il y en a eu un peu, mais le parlage en langue ou la glossolalie ne s'est pas manifesté durant cette période-là. Alors, bien entendu, on était en période de guerre. La guerre a commencé en 14, mais tout de suite avant, il y a eu toutes les énergies que les sociétés se préparaient à la guerre. Alors, il y a eu beaucoup d'énergies qui ont été absorbées, bien entendu, par la Première Guerre mondiale. Alors, on peut regarder brièvement un petit peu les résultats du cinquième grand réveil évangélique. On a déjà mentionné un grand nombre de conversions, 5 millions dans la globalité, dont 2 millions aux États-Unis. Des vies transformées. Bien entendu, quand le Saint-Esprit se manifeste dans une société ou dans une église locale qui réveille les gens, les vies, c'est vraiment littéralement là, transformé. On ne reconnaît plus les gens. Disons maintenant un esprit de prière, un esprit de repentance, un esprit d'évangélisation, un grand amour de la parole, et etc., etc. On pourrait allonger la liste. Autrement dit, tout ce qu'un chrétien devrait faire, selon ce qui est commandé dans les Écritures, ça l'arrive, là. Et les chrétiens deviennent tout d'un coup zélés et aimant le Seigneur plus que jamais. Alors, bien entendu, les vies transformées, c'est quelque chose de désirable, hautement désirable. Il y a bien entendu, durant la même période que ces choses-là arrivent, une diminution du nombre de péchés et de leur gravité. Alors, le taux de criminalité durant ces périodes-là dans les différents pays est considérablement réduit. L'honnêteté et la chasteté ont été, durant ces périodes-là aussi, vigoureusement promues et pratiquées. Et les sociétés connurent des baisses importantes de l'ivrognerie et du gambling, et on pourrait très certainement dire qu'il y a eu, dans l'ensemble de tous les péchés qui se commettent, une très grande diminution également. Et tout cela finit par avoir, quand les sociétés changent, un grand nombre de convertis dans une ville ou dans une province ou dans un pays, bien entendu, tout ça a un impact sur le climat politique. Alors, ça fait en sorte que le climat politique du pays ou des villes sont vraiment assainis. Alors, les sociétés connurent d'importantes baisses de la corruption à tous les niveaux de gouvernement. Disons qu'ici, au Québec, on en aurait vraiment besoin. Et pas rien qu'ici, parce qu'on entend parler que c'est vraiment un peu partout la corruption maintenant. Alors, ils ont connu comme le phénomène des politiciens honnêtes et intègres qui ont été élus un petit peu partout durant cette période-là. Bien entendu, des chrétiens qui sont réveillés, des chrétiens qui sont sensibles aux besoins de leur entourage, permettent aussi le développement d'un grand progrès social. Alors, il y a eu des écoles, des hôpitaux qui ont été construits dans les champs missionnaires, comme par exemple aux Indes, où la population, le taux de maladie qu'il y a là est très grand, et le taux de niveau d'instruction est très bas. Et les chrétiens se sont ont beaucoup travaillé dans le but de construire ces choses-là, hôpital. Alors, aujourd'hui, avec le temps, on a de la difficulté à saisir tout l'impact que ces choses-là peuvent avoir eu sur ces sociétés-là. Alors, les élèves dans les écoles chrétiennes des Indes doubla pour passer à 595 725 élèves. 90% à cette époque-là du personnel médical était chrétien. Les fondations des systèmes éducationnels supérieurs et hospitaliers furent faits par des chrétiens aussi en Afrique. Alors, si on regarde, c'est très difficile d'évaluer, à moins d'aller dans les détails, là, prendre un coin de pays et regarder ce qu'ils ont fait et l'impact que ces choses-là ont eu auprès des populations. C'est difficile d'examiner ça des fois 100 ans après, mais je suis convaincu que quelqu'un qui étudie le phénomène de près se rend compte que toutes ces les transformations que le Seigneur permettait dans les vies des chrétiens et par les conversions massives qu'il permettait avaient un très grand impact sur les populations et sur le bien-être général, non seulement des églises, mais aussi des sociétés. Alors, j'ai mis deux applications. On ne peut s'empêcher de remarquer deux choses dans cette historique bien tassée des réveils. Première remarque, il ne fait aucun doute que Dieu a utilisé ces puissants réveils comme le principal moyen de restaurer la richesse d'une Église en déclin et de faire avancer la cause de l'Évangile dans le monde. C'est la façon dont Dieu procède pour maintenir une Église dans la vitalité, et c'est de cette façon que Dieu étend régulièrement son royaume, à la fois numériquement et géographiquement. Deuxième remarque, il y a une similitude marquée avec l'expérience d'Israël à l'époque des juges dans l'Ancien Testament. Le même cycle de péché et d'apathie, de déclin et de défaite, de prières désespérées en vue du secours divin, et finalement la puissante intervention de Dieu caractérise chaque réveil. Peut-être se trouve ici un indice permettant à l'Église d'aujourd'hui de concentrer ses efforts dans la bonne direction. Que Dieu nous accorde sa grâce, afin que nous prenions part au réveil qui viendra peut-être avant le retour de Jésus. Que notre grand Dieu soit éternellement adoré. Amen.
Amen.